Vous allez voir que la période que moi je vais aborder, ça se passe in the 70s, hein, c'est vraiment fin des années 60, début des années 70, en 75 plus ou moins, je ne dépasse pas cette date-là. Alors il y a énormément, hein, c'est vrai, dans la présentation que j'avais faite pour le site, c'était les voici, les féministes, les artistes et puis les années 70, et puis j'ai rajouté en fait après qu'il y a un excès, il y a énormément d'images, et j'ai appris que dans les écoles d'art on ne montrait pas beaucoup d'images, on s'arrêtait sur une image et on faisait un discours. Donc moi par contre, travailler avec le panel large, pas le plus large, parce qu'il y a plein d'artistes aussi que je n'ai pas abordés. Il y a une aporie, mais ça c'est très caractéristique pour le féminisme de cette période-là. Alors aporie, ça veut dire qu'il y a un désordre, que ce n'est pas rangé de manière rationnelle ou chronologique. Il y a beaucoup de choses qui vont s'emboîter les unes dans les autres, se recouvrir. Et ça, c'est très typique alors aussi de cette période qui est dans un mouvement permanent. Brigitte, vous avez évoqué la Beat Generation, elle précède, mais c'est toujours dans ce mouvement-là, en fait, dans cette mouvance, dans une société qui est en train de se construire et de défaire des choses qui étaient mises en place dans les années 50, principalement, qui va apparaître. Et puis, je parle de cartographie, parce que malgré tout, en tant qu'historienne de l'art, et en venant vous parler, je dois mettre un peu d'ordre là-dedans. Et l'ordre que j'ai choisi, c'est un ordre très basique, un ordre par thème. Alors, la manière de ranger les choses par thème, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans les années 90. Et dans les années 90, les études féministes, les études de genre sont bien marquées, tandis que ce que moi je vais aborder maintenant avec vous, les années 70, tout est en train de se faire, tout est en train de se construire et de se mettre en place. Alors, les thèmes, c'est une réaction à l'oppression. L'oppression de qui ? Eh bien, l'oppression des femmes. Les femmes, non, on parle de démocratie dans ces années-là, hein, ça veut dire on est tout à fait dans le pays, et excusez-moi, parce que moi je ne pense pas toujours ça de l'Amérique du Nord, des États-Unis, mais c'est tout de même de ce pays-là que je vais vous parler, parce que c'est là que ça se passe principalement, on va voir les répercussions que ça va trouver alors en Occident, et puis que ça va en fait aussi essayer de créer des modèles pour les autres continents. Bon ou pas bon, je vous laisse aussi à vous en fait un jugement là-dessus. Discrimination par rapport au destin, ça veut dire être née femme, c'est être née dans un corps et du coup devoir en fait agir et réagir à un tas de choses qui sont imposées dans la société, imposées de manière légale. Ça veut dire que les femmes n'ont pas accès à un travail, n'ont pas accès à des horaires, n'ont pas accès à des salaires égaux à ceux des hommes. Si elles divorcent, elles perdent le droit sur leurs enfants. Enfin, ça veut dire, on va voir qu'il y a un tas de choses qui sont structurées dans la société qui font que ce sont vraiment des êtres, elles vont dire, de seconde catégorie. J'aime pas cette terminologie non plus. Qui sont les autres de seconde catégorie aux États-Unis, à part les femmes ? Qu'est-ce que vous diriez ? Pas d'idée ? C'est les Noirs. Et c'est le mouvement noir, pour moi c'est très très important aussi que vous preniez ça vraiment avec vous, c'est le mouvement noir, le mouvement des droits civils, que vous avez peut-être abordé ou touché, qui va donner l'impulsion aux femmes pour créer un mouvement féministe, pour créer en fait un détachement par rapport à ce que la société impose. Bon, après l'oppression, on va passer dans la glorification, c'est « waouh, ça y est, les femmes en fait essayent de se définir, essayent de se trouver, comment est-ce qu'elles vont alors créer leur propre identité, sur quoi elles vont se baser ?» Et à travers toute l'approche que je vais faire aussi, je vais parler des lieux. Alors les lieux, c'est là où tout à coup, des femmes qui étaient tout à fait isolées dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison, et c'est assez propice aux États-Unis aussi, qui est un pays très très grand, où les femmes sont parfois alors aussi bon, très très détachées de leur famille, hein, ça veut dire, ou très très détachées de leurs amis avec qui elles ont étudié, parce qu'elles vont vivre dans des états différents. Et elles vont créer des lieux de rassemblement qui sont des lieux symboliques où elles vont réfléchir ensemble, où elles vont agir ensemble. Maison de femmes, par exemple, hein, c'est vraiment exposition, lieu d'exposition pour les artistes qui n'existaient pas. Hein. Ça veut dire s'il y avait une exposition avec une artiste femme qui était justement l'épouse d'un Jackson Pollock ou d'un William de Kooning, eh bien, on trouvait qu'on avait bien fait. Elles vont dire, bon, on n'est pas obligé de se marier avec un grand artiste pour pouvoir avoir aussi accès à des lieux d'exposition. Et des lieux, alors aussi, qui sont en fait simplement les lieux communs, comme par exemple la rue. Alors vous allez voir ce que ça va créer comme effet. Là, en fait, on est ensemble jusqu'à 10 heures. Tout à coup, je dois un peu prévoir dans quel sens je vais emmener tout ça. Quand je vous parle d'art, il faut voir aussi que, bon, on est dans une période, je parle d'art plastique hein, au départ, et on est dans une période où il y a une très très grande remise en question de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, à quoi ça ressemble. Par exemple, on ne va plus parler de peinture et de sculpture, on va parler d'art. Et nous, aujourd'hui, quand on parle de ces œuvres-là, on parle d'installation, on parle d'environnement, on donne des noms comme le body art, mais tout ça, c'est en train de se construire, c'est en train de se créer. Et pour beaucoup d'artistes, il y a alors une volonté de faire de l'anti-art. Justement, de ne pas avoir ce statut très élevé dans un musée avec une reconnaissance, avec tout un discours qui accompagne, mais de faire quelque chose qui est tout près de la vie. Et les femmes vont alors beaucoup travailler sur cette notion-là. Donc moi, c'est vraiment de ça que je vais vous parler, mais de là-dedans, j'ai alors aussi repris en fait des thèmes ou des idées en parlant avec votre professeur. Bon, d'abord, l'idée du féminisme, ça fait partie de ce que je vais apporter, de comment les femmes sont devenues visibles. Et puis, un autre angle d'approche, ce sera par rapport à la littérature. Mais je me suis vraiment cantonnée à William Burroughs, hein, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Par contre, bon, moi, je suis née tout à la fin des années 50, et Burroughs, du temps de ma jeunesse, années 70, années 80, c'était vraiment un personnage de référence. Je vous dis tout de suite que je ne sais pas si vous l'appelez William ou Bill, mais c'est un grand misogyne. Hein, ça veut dire, alors aussi, quand on vient du côté des féministes et qu'on va aborder William Burroughs comme référence, ça fait un drôle d'effet. Il a tué sa femme, par accident, paraît-il. Enfin, ça n'a jamais causé plus que quelques heures au bureau de police. Et puis, l'affaire était réglée. Il a collaboré avec plusieurs femmes dont je vous parlerai, dont je vous montrerai des exemples. Il a travaillé avec Laurie Anderson, il a travaillé avec Patti Smith, enfin travaillé, ça veut dire qu'ils ont donné des lectures ensemble, ils ont participé à des festivals, il a inspiré beaucoup de monde en faisant ses cut-up. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez cette image, il y a des artistes qui racontent qu'ils arrivent chez William Burroughs et il écrit des pages, et ça s'empile derrière lui, puis tout à coup, il prend les pages, il les assemble un peu, enfin, c'est les autres en fait qui font un travail d'assemblage. Et ça crée, je dois dire, moi j'ai jamais lu que Le Festin nu, et je trouvais ça incroyable, captivant. Enfin, c'est peut-être quelque chose que vous avez traversé, avec une part d'horreur. Et c'est assez intéressant de voir que quand les femmes arrivent sur la scène de l'art, elles ne vont pas faire des petits pompons et des petits bébés tout mignons, mais elles vont y aller d'une manière alors aussi assez agressive, assez provocante, et montrant beaucoup plus en fait des angoisses et des paniques intérieures. Si on vous parle d'art américain ou de culture américaine, prenez toujours dans votre bagage, ces petits stéthoscopes, une manière de regarder, en considérant une population très diverse, une population très, en tout cas dans cette époque-là, assez joyeuse, éduquée pour être critique, ça c'est quelque chose alors aussi qui fait partie d'une tradition, et assez paranoïaque. Hein. Ça veut dire la notion de peur, elle accompagne alors aussi quelque chose qui est exprimé dans les œuvres d'art. Bon, vous voyez que la littérature, enfin moi je n'ai pas du tout téléologique, hein, donc je vais faire comme ça des allées et venues, c'est ça aussi cette notion d'aporie où tout à coup, hop, tous les terrains vont se déplacer. Par rapport à la littérature et par rapport à cette période-là, en Amérique, ce qu'on va voir, c'est beaucoup de pamphlets, c'est beaucoup de circulaires que les femmes vont écrire où elles vont alors énoncer leurs revendications, leurs dénonciations, parce que c'est ça aussi. Quand vous êtes opprimée, comment est-ce que vous vous y prenez pour dire, en fait, ça ne va pas? Elles vont créer des rencontres où elles vont travailler ce qui s'appelle le « consciousness raising ». Alors, traduit en français, ça va donner la prise de conscience, mais en fait, c'est plutôt une sensibilisation. Mais prise de conscience de quoi? Prise de conscience de l'état dans lequel elles sont maintenues. Et ça va donner des slogans, hein, ça va donner alors lieu à toutes sortes de manifestations. En France, par contre, vous avez exactement à cette période-là le début de ce qui va s'appeler un mouvement en littérature qui s'appelle l'écriture féminine. Vous connaissez ? Avec des théoriciennes, donc qui viennent alors plutôt du monde de la psychanalyse. Je vais citer Lucie Rigaret et Julia Kristeva, dont vous avez certainement entendu parler, hein, qui est une sémiologue qui va étudier les signes. Mais il y a aussi deux auteurs que je vous recommande. Et une, c'est Hélène Cixous, qui va d'ailleurs donner ce terme d'écriture féminine. Et Cixous, elle est joycienne, donc ça veut dire qu'elle va étudier l'œuvre de Joyce, elle va mélanger les langages, elle va aussi créer quelque chose qui n'est pas uniforme, qui n'a pas une ligne, mais qui va alors tout à fait se mélanger. Elle va privilégier la poésie sur la théorie, et elle va écrire plusieurs fois des pièces de théâtre pour Ariane Mouchkin, pour le Théâtre du Soleil. C'est magnifique, hein, si vous avez l'occasion de voir ça dans votre jeune vie aujourd'hui, ne le ratez pas. Alors, un des textes les plus connus, c'est Le rire de la méduse, La jeune née, La venue à l'écriture ou Neutre. Alors, ce neutre, j'en parlerai alors aussi plusieurs fois en abordant les œuvres d'art. Elle est bisexuelle. Parce que, alors, ça aussi, c'est pour un peu rendre hommage à Béatrice Preciado, qui vous aurait beaucoup plus parlé en fait des identités sexuelles, mais des identités queer. Alors ça, les queers, on va voir aussi, ils n'existent pas encore. C'est un terme qui existe, hein, ça veut dire bizarre, étrange. Vous devez bien vous souvenir que dans les années 70, en Europe, mais aux États-Unis, très très fort, parce qu'il y a tout un côté puritain, être homosexuel, c'était réprimé par la loi. Vous risquiez la prison. Si vous n'étiez pas en prison, vous étiez de toute manière étiqueté de manière psychiatrique. Ça veut dire que vous étiez complètement barzingue. C'était quelque chose qui n'était pas accepté, qui n'était pas toléré. Alors vous imaginez que le coming out qu'ils vont faire, la place qu'ils vont prendre dans la société, c'est vraiment au prix d'un très très grand effort, d'un très très grand courage. Donc ça, de mon point de vue de nouveau, d'histoire de l'art féministe, eh bien, je parlerai plutôt des lesbiennes que des autres. Bon, ça veut dire aussi parce qu'à ce moment-là, elles vont alors aussi chercher, mettre quelque chose en place, et ce sont certainement les théoriciennes lesbiennes qui vont amener les théories queer, qui vont amener une réflexion sur ces questions d'identité sexuelle. Et puis ce que je voulais spécifier aussi, c'est quand je vous parle d'Amérique, c'est très réduit. Je vais vous parler de New York et de Los Angeles, et c'est vraiment... Si vous avez dans la bibliothèque ici des magazines d'art qui s'appellent Art Forum, Art News, Art in America, et si vous avez les années 70, amusez-vous de temps en temps à les regarder. D'abord, il y a de nouveau quelque chose que moi je ne vois plus dans les magazines d'art aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est très pétillant, qui est très nouveau, on est en train de chercher. Et il y a aux États-Unis une espèce de recherche d'identité sur les différences justement entre ces deux pôles. À Paris, pour le moment, il y a une exposition qui s'appelle Los Angeles, hein, et qui retrace alors aussi années 70, années 80, avec toute cette importance aussi de l'industrie du cinéma qui va produire sur les œuvres d'art toute une expérimentation différente. Ben, je crois que voilà, j'ai plus ou moins abordé les différentes thématiques. Donc ça, vous avez féminisme. Bien oui, aussi, quand moi, ça veut dire, je dois vraiment vous prévenir aussi, parce que quand je vous parle de féminisme américain, malgré tout, on se retranche de nouveau dans quelque chose qui va très très vite être dénoncé par les femmes en disant, vous savez, les féministes, enfin dans les années 70, hein, c'est des femmes blanches, hétérosexuelles, donc on est en fait tout à fait dans une caste dominante. Et là aussi, on va commencer de changer. Dans les années 70 que moi j'aborde, je vais vous parler deux fois d'artistes noirs, des femmes noires. Je ne vais pas vous parler de Chicanas, parce que c'est vraiment, c'est amené encore en fait des autres pistes, mais ce sont des femmes qui vont avoir une reconnaissance à partir des années 80, à partir des années 90. Voilà. Je crois que vous avez une image là, sur l'écran depuis un bon moment. C'est un livre auquel je me réfère, bon, souvent, avec une auteure qui s'appelle Laura Cottingham. Laura Cottingham, elle est lesbienne. Elle part de ce point de vue-là, de cette expérience-là, pour regarder ce qui se passe sur la scène de l'art. Et voyez qu'elle a choisi pour le... l'image, la couverture de son livre, quelqu'un avec les yeux bandés. C'est un peu cette manière alors aussi dont on se trouve devant l'histoire de l'art. Si on vous parle de l'histoire de l'art des années 70, on va dire minimalisme, art conceptuel, et puis tout à coup on va dire, ah oui c'est vrai, il y a le land art, ah oui c'est vrai, il y a le body art, mais très souvent on va oublier toute une partie, et ce sera la partie alors aussi des femmes qui vont agiter, qui vont secouer cette scène artistique. Le mot society est très important parce que c'est vraiment quelque chose qui est sociétal, qui est de l'ordre de la sociologie. Et ça aussi, c'est compliqué, enfin c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de choses alors qu'il se passe en même temps, mais aux États-Unis, c'est en fait quelque chose où on va voir que ce qui est considéré comme l'art majeur et l'art mineur se mélangent très très fort à cette époque-là. Alors les yeux tronqués, eh bien on le retrouve, vous voyez, ça va, c'est assez, bien, vous préférez qu'on occulte, ça va ? Ça, c'est une photo qui a été faite par Laurie Anderson. Je parlerai d'elle à plusieurs reprises. C'est une jeune historienne de l'art qui va devenir artiste. Bon, ça veut dire aussi qu'elle a étudié la sculpture. Et vous voyez que là, elle pratique la photographie. Vous connaissez ce travail ? Laurie, alors... Vous faites comme vous voulez, je ne sais pas très bien. Vous avez Laurie Anderson... Vous la connaissez ? Non ? Ça veut dire, nous on la connaît, mais je crois qu'il y a des fossés de génération. Hein, oui. C'est vraiment. Mais ça veut dire, bien sûr, si je vous la présente très très vite dans le cours, c'est parce que vous avez à la découvrir. Hein, c'est vraiment, vous allez avoir beaucoup de plaisir.
Elle continue quand même à être assez présente sur la scène musicale.
Elle est plus trop présente, elle a un peu. Mais ça, c'est assez. Elle a été très présente.
Les années
80, 90, oui. Je l'en parlerai à d'autres moments. Ici, ça s'appelle Fully Automated Nikon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est d'une expérience. Les femmes vont beaucoup parler à partir de l'expérience de leur vécu. Et elle se rend compte que quand elle est dans la rue, elle est jeune, elle a une vingtaine d'années, les types l'abordent, mais quand elle est déjà passée. Ça veut dire, bon, hop, elle marche. Elle se dit, bon, celui-là, sans doute, il va m'ennuyer. Enfin, justement, il ne m'ennuie pas quand elle arrive, quand elle est bien en face de lui. Mais quand elle est juste passée, elle dit, hey babe. Elle dit, alors, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Parce qu'il ne cherchait pas la communication. Il cherchait plutôt à m'impressionner, à me faire peur, à m'attraper. Donc, elle, pendant toute une semaine, ou je ne sais pas, pendant plusieurs jours, elle se promène avec son appareil photo chargé et clac, elle fait une photo du type. En se disant, ben voilà, je shoot, je prends une image, je lui réponds de manière agressive. Elle dit que ça ne marchait pas du tout parce que ça leur faisait trop plaisir. Et on voit d'ailleurs le sourire du bonhomme là sous les yeux. Mais après ça, elle enlève les yeux, elle enlève le regard. Par le regard, il y a alors aussi tout un potentiel, toute une force. Dans les théories qui sont développées dans les sciences humaines, on va dire le pouvoir masculin. Alors ça, c'est les trucs de genre, hein, ça veut dire... Il ne faut pas y croire parce qu'on le dit. C'est ce qu'on va plus mettre en place. Le pouvoir masculin est dans le regard. Le pouvoir féminin est dans le toucher, est dans le contact. On va voir comment alors aussi ça va être exploré par les artistes. Alors là, c'est un petit livre, c'est tout petit, hein, c'est un petit format carré, avec justement ici, on a une forme minimale qui va apparaître au centre, un petit cercle, c'est un petit sceau. Rouge, puis on ouvre le livre et chaque fois sur la page de gauche il y a le mot, enfin les deux mots rape is, le viol c'est, et puis il y a une explication. Et c'est pas... Alors, cette histoire de viol, c'est quelque chose qui va revenir en permanence alors aussi dans ce que les femmes vont dénoncer. Le viol n'est pas considéré comme un crime, hein, ça veut dire c'est puni plus ou moins comme un vol dans un magasin, si vous volez des canettes ou des canettes, je sais pas, de boissons ou du chocolat en tant qu'homme, eh bien, vous n'êtes pas plus puni que si vous commettez un viol. Donc les femmes disent, bon, nous, on en a marre, on a envie de sortir, on a envie de faire partie de la vie publique, mais on est en danger. Ça veut dire, s'il n'y a pas plus, au fait, de contrôle sur la voie publique, on est en danger. Mais elles vont dire aussi, par exemple ici, le viol, c'est justement, bon, je ne sais pas si c'est très lisible, mais c'est quand un étranger vous regarde dans la rue, qui vous déshabille du regard et qui vous laisse là, donc tout à fait pantoise. Donc c'est vraiment aussi pour montrer cette forme de vulnérabilité. Et ça, c'est un travail de Susan Lacey. Donc il a fait des œuvres tout à fait différentes, hein, ça veut dire ici, c'est une toute... Moi, chaque fois, quand je... c'est ça le problème, c'est qu'on vous montre une œuvre, alors que ces femmes, elles sont là au début de leur carrière, enfin de leur carrière, de leur travail, dans les années 70, elles ont une vingtaine, maximum une trentaine d'années, et aujourd'hui, elles continuent toujours. Ce qui m'a plu, moi, en regardant ce que la plupart de ces femmes sont devenues, parce qu'on en entend, on n'a pas souvent vu d'exposition ni d'œuvre de Susan Lacy exposée à Bruxelles, ni à Paris, ni à Cologne, c'est que si vous allez regarder sur les sites de ces femmes aujourd'hui, ce sont beaucoup d'activistes. Ça veut dire qu'on n'entend pas beaucoup ce qui se passe aux États-Unis par rapport à la guerre en Irak. Mais je peux vous dire qu'elles ont toutes, en fait, réagi. Elles ont toutes produit, en fait, des textes, des images, participé à des manifestations qui en parlent. J'en reviens sur la scène. Ici, on est dans les années 60. On est en 1963. Et la femme que vous voyez allongée là-bas, j'imagine que ça évoque tout de suite, enfin, normalement, hein, ça veut dire si vous avez une petite connaissance de l'histoire de l'art, on retourne à la modernité. Modernité aux États-Unis, c'est les impressionnistes. Ils ont des musées pleins d'œuvres impressionnistes parce que c'est le début en fait des collections américaines qui viennent se servir, enfin se servir, viennent faire des achats en France au 19e siècle. Et Caroline Schliemann, alors elle prend un pseudonyme, c'est pas son nom, Schliemann, mais c'est ça le nom qu'elle va choisir, l'homme des neiges, est allongée là, elle est passive et elle participe à quelque chose qui s'appelle à l'époque un happening, hein, donc c'est vraiment, aujourd'hui on parlerait plutôt en termes de performance, avec Robert Morris, donc qui est un artiste qui va prendre une très grande place dans le langage minimaliste. Il est là, vous voyez que lui est en pleine action et que justement est en train de déployer morceaux d'étoffe bien géométriques. Il y a aussi un petit cube blanc là à côté. Bon, Schliemann, elle va elle-même produire des peintures, elle a une éducation artistique et vous voyez que 10 ans plus tard, elle fait ses propres performances et ici, se réfère plus à Manet, avec tout ce que ça va avoir justement d'élégant, de beau, de poétique, d'intellectuel, mais à l'européenne. Alors pour les Américains, il faut faire aussi une très très grande différence entre ce qui est typiquement européen, qui est plus intellectuel, qui est plus éthéré, et ce qui est typiquement américain. Et l'Amérique ici, vous voyez là, à qui elle va faire référence, c'est Jackson Pollock. Enfin, c'est ce côté, alors bon, justement, très expressif. C'est contre ce côté très expressif de la peinture gestuelle de Pollock, que les minimalistes étaient venus. Ils disaient, nous, on va faire des œuvres d'art où on ne peut pas deviner le tempérament de l'artiste, où on enlève ce côté de génie créateur. Elle revient à ça, et vous voyez qu'elle le fait toujours, le corps nu. Et ça, c'est alors aussi très caractéristique dans cette société, années 60, années 70, où la nudité sera une expression, en fait, de liberté. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur cette image-ci. On est toujours dans les années, revenu dans les années 60, on est dans la Factory. Factory, vous voyez qui c'est? Quel artiste? C'est toujours Caroline Schliemann. Ah oui, elle n'est pas encore inscrite au tableau. Factory, c'est Andy Warhol. Alors là, vous avez compris qu'on est sur la scène new-yorkaise. Alors dans la Factory, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Warhol, mais il y a aussi énormément d'artistes qui viennent faire des tentatives, des présentations. Alors ici, c'est un document qu'il y a dans un livre que Schliemann a fait sur toute son œuvre. Vous la voyez là, hein, bon, ce côté très hippie, comme ça, flower, hein, c'est vraiment les enfants des fleurs, donc c'est toute la Beat Generation qui va se retrouver là-dedans. Et les autres femmes, en tout cas les deux, celle-ci, on ne la voit pas, d'ailleurs non identifiée, ils ont l'air bien pétés. Hein. Alors ça, c'est aussi ce côté comme ça. Bon, si on parle de Bowes, en général, on vous enseigne l'histoire de l'art, c'est toujours très très clean. Ben, je peux vous dire que les expérimentations avec les drogues, elles ont bien vécu. Et toute la plupart de tous ces artistes qui ont expérimenté beaucoup, chacun ou chacune de leur manière, vont tous prendre des positions après en mettant les jeunes, les nouvelles générations en garde et en disant, bon, ça veut dire c'est bien, ça veut dire c'est de se désinhiber. Mais ne vous laissez pas emporter là-dedans. Ça veut dire aussi, il va y avoir par exemple beaucoup de critiques par rapport à, comment est-ce qu'elle s'appelle, Edwige Sedgwick, hein, vous voyez, c'est cette espèce de égérie de Warhol. Ça a été vraiment complètement pété, vous n'avez pas pensé, tandis qu'ici, ils vont tout de même essayer d'être plus pragmatique, plus pratique. Alors les autres, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est Charlotte Moorman, qui fait beaucoup de performances et qui va lancer tout le mouvement vidéo avec Namjoon Park. Et puis, celle-ci, c'est Yayoi Kusama, qui est une artiste japonaise qui vit à New York à l'époque et qui va travailler énormément l'installation. Donc c'est vraiment comment créer des installations. Elle a fait un travail magnifique. C'est une femme qui a eu un problème psychiatrique par la suite. Là, ça, en fait, c'était la factory, c'était les lieux d'art. Et les féministes, en fait, elles ne cherchent pas à faire la révolution dans le milieu de l'art, elles veulent faire la révolution dans la société. Elles veulent changer toute la société. Qui est vraiment des conséquences, qu'il y ait un avant et un après. Les choses bougent. Et pour bouger, ça ne va pas se passer en fait dans des lieux off, des lieux d'artistes underground, mais ça doit se passer dans la rue. Et vous avez alors ici une image qui montre une manifestation en 1972. J'ai choisi celle-ci parce qu'il y en a eu plein, des manifs, il y a eu plein de rassemblements de femmes, elles ont vraiment toujours étaient, et elles ont été très spectaculaires, c'était une de leurs stratégies, c'était en fait de faire quelque chose qui fasse tellement tâche, qui soit tellement spectaculaire que la presse va réagir et que le public va aussi tout à coup se dire « Mais qu'est-ce qu'elles ont ces femmes? Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qui leur arrive ?» Donc c'était vraiment ce côté alors aussi de faire un happening dans la rue. Je l'ai choisi parce que si vous regardez, vous voyez qu'ils sont très ethniques. Ethnique dans le sens américain, c'est-à-dire le côté indien, avec les totems, avec, ce sont des vêtements avec des inscriptions, mais ça va faire ce côté de vêtements à plumes qui va alors aussi de nouveau donner ce côté nationaliste qui est assez caractéristique du mouvement et de l'époque. Je ne sais pas si vous l'avez abordé dans certains de vos cours, des conférences qui ont été données par Sophia. On peut reconnaître en tout cas deux photos réalisées pour l'artiste Adrienne Piper, en français ça fait Adrienne Piper, et Adrienne, elle va partir de son identité de femme noire, et ce qu'elle peut alors créer comme effet dans la rue. Elle est philosophe de formation, et je crois que c'est pas pour rien. Vous voyez qu'elle place, là en fait sa performance qu'elle fait, c'est avoir un grand essuie dans la bouche, et qu'elle laisse sortir comme ça. C'est vraiment, on regarde un peu ce que ça peut produire comme effet dans la rue, mais c'est aussi ce côté, il y avait les yeux bandés, il y avait aussi ce côté de vouloir dire quelque chose, de ne pas y arriver. Vous voyez que ça va faire alors des photos à différents moments, mais c'est de nouveau être dans la rue, créer quelque chose, voir en fait comment il va y avoir des réactions. Et alors la rue, ça va aussi donner en fait un rapport de nouveau à quelque chose de beaucoup plus proche du vécu. C'est de nouveau le travail d'une artiste noire, et c'est le travail de Faith Ringgold, et elle a fait une œuvre ici qui parle de la mort par overdose d'un certain Booba. Alors Booba, il est allongé là, ça va être accompagné de toute une performance qui se termine par un rap. Alors un rap, c'est aussi très très proche de cette écriture automatique de cut-up de Burroughs, où, vous connaissez bien la musique rap, c'est vraiment un dialogue, un monologue très 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 accéléré où on met un tas de choses alors aussi en place. La musique rap, elle est très connotée alors aussi avec un côté misogyne, ça veut dire noir rap, en tout cas dans les années 80-90, c'était quand même quelque chose de peu apprécié, mais il faut voir alors ce que les femmes ont produit comme réponse ou comme action-réaction à ça. Moi, je vous montre ça parce que ça, c'est la réalité de la rue aussi. Ça veut dire, on parle des drogues, on sourit, on se dit « Ah oui, c'est vrai, les artistes, quand même, tout ce qu'ils n'ont pas fait. » Mais ça veut dire, ceux qui vont y laisser leur peau, ceux qui vont remplir les prisons, c'est les Noirs. C'est vraiment, ça veut dire, moi je traverse Matongé assez souvent parce que c'est sur mon lieu de passage. Je voyais Mama Clara ou Maman Clara qui avait fait une affiche pour mettre dans son bar en disant pas de drogue, et le duel est réprimé par la loi, pas de drogue ici s'il vous plaît, parce que c'est vrai que c'est dans son bar alors aussi qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont surgir. Un autre problème, une autre approche. Vous voyez qu'on fait toujours des allées et venues. Vous avez ici une femme blanche avec ses longs cheveux lisses sur les épaules. Ça, c'est vraiment un look années 70. Ça veut dire, c'est fini les bigoudis, les petits cheveux coiffés. Donc, ça veut dire, ça va montrer aussi cette notion de de libération du corps, et vous avez le nom de cet auteur, mais qui est aussi une sculpteur, hein, qui s'appelle Kate Millett. Et Kate Millett, elle a écrit « The Politics of Sex ». Alors là, c'est un livre qui tombe comme une bombe dans la société américaine. Elle va vraiment mettre le mot « patriarcat » enfin, il existait déjà, mais elle va vraiment l'utiliser pour montrer à quel point on est dans une société patriarcale, c'est-à-dire qui opprime les femmes de par l'accès, bon, la biologie. J'ai choisi cette image aussi parce que vous avez le terme de « politics of sex ». Et c'est traduit en français par « la politique du mal ». Alors, je ne sais pas si vous avez lu Brooks en français ou en anglais. Ça, c'est normal, hein, ça veut dire que vous n'avanceriez pas en plus à devoir enseigner l'anglais avec toutes les connaissances. Mais il y a tellement de choses alors aussi qui nous échappent. Hein, c'est vraiment, tant mieux, hein, ça veut dire, c'est justement dans ces choses qui sont là, qui sont libérées, qu'on peut continuer de chercher, continuer, ou pas de chercher, mais de trouver les choses. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire sur Kate? Elle ressemble un petit peu aussi à cette image de Janis Joplin, bon, qui elle aussi mourra d'une overdose. Alors c'était ça aussi, quand on vous parle de femme blanche, on ne va jamais dire « Ah, voilà une juive !» Ce n'est pas du tout le cas de Kate Millett, elle est de souche irlandaise, catholique, mais ça veut dire aussi, dans la communauté blanche, elles sont toutes uniformisées. Mais mon œil, hein, ce n'est pas du tout vrai, ça veut dire qu'elles vont toutes avoir aussi des références culturelles qui vont créer dans leur approche, dans leur vécu, quelque chose d'assez différent. Kate Millett, elle va être étiquetée la Mao des femmes aux États-Unis. Alors ça, c'est pour ça que j'ai pris aussi cette image de Mao. Alors le maoïsme dans les années 70, début des années 70 en tout cas, ça va encore toujours aussi être un grand modèle pour toutes les personnes de gauche, pour toutes les personnes révolutionnaires, avec ce côté de la collectivité. Alors ça, c'est aussi, bon, je vous ai dit, ces femmes vont se rassembler, elles vont chercher des lieux où elles vont pouvoir travailler, montrer, réfléchir, montrer des choses ensemble et réfléchir ensemble. Mais toute cette notion de consciousness raising, de prise de conscience, qu'on associe directement à des techniques thérapeutiques de groupe, il y a de ça. Mais elles vont dire, non, 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 nous, en fait, on fait comme les Chinois. Et les Chinois aussi se réunissent, cherchent, essayent d'avancer ensemble. Donc, pour moi aussi, c'est important qu'il y ait toute cette notion, alors, révolutionnaire, hein, de contre-mouvement, de contre-politique par rapport à le système américain en place. Et ici, vous avez alors une image avec différentes magazines. Bon, il y a Woman Art avec le logo, hein, qui apparaît à la fin des années 60, un point dans le signe biologique des femmes. Et il y a The Great Goddess, alors ça, ce sera le début de la glorification. Hein, ça veut dire quand on va montrer qui sont les femmes, quel est le pouvoir des femmes, on va retourner de manière assez essentialiste à une époque où c'était les femmes qui avaient plus de pouvoir de par justement les notions de maternité, ça je vais aborder tout de suite. Et puis, il y a aussi le fameux magazine Heresies. Hein, donc, c'est vraiment les hérétiques, les femmes qui vont se retourner, cette notion de sorcière, hein, de femmes qui vont prendre un pouvoir alors plus obscur. Et c'est dans les pensées de Susan Sontag, bon, qui n'est pas spécialement féministe, en tout cas au départ, qu'elle va dire que c'est très typique, en fait, quand une idée nouvelle apparaît dans une société, on va dire, mais ça c'est une idée hérétique, hein, ça veut dire, elle est dangereuse, elle est un peu satanique, c'est vraiment, ça va effrayer. Les autres, les précédentes, ce sont des magazines typiques de femmes. Elles ne doivent pas dire « je suis une femme » ou « voici le travail d'une femme ». Elles parlent des femmes. Parce qu'on n'en avait pas parlé, qu'on avait oublié. Ce n'est pas des journaux féminins. Hein. Ce n'est pas pour vous apprendre à savoir comment faire une jolie petite salade. C'est vraiment pour réfléchir. Bon, pourquoi pas, hein, ça veut dire... Ils vont pas faire des grandes différences non plus. Mais ce qu'ils vont chercher, c'est plutôt de montrer les expressions artistiques. Tandis qu'ici, c'est un magazine d'art, 1971. Et c'est une édition spéciale sur les femmes. Et c'est dans ce magazine-là qu'il y aura un très grand texte de Linda Nochlin qui va poser la question, enfin c'est un article qui s'appelle « Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grands artistes femmes ?» Et elle va dire « Eh bien, ça vient de par l'éducation. » Les femmes sont entraînées, Virginia Woolf dit la même chose, hein. Elle va dire, les femmes sont entraînées à grandir les hommes. Virginia Woolf va dire, tant mieux. Parce que grâce à ça, les hommes qui ont été admirés par les femmes, eh bien, ils ont construit des ponts, ils ont inventé toutes sortes de structures qui ont fait qu'on est sorti des marais. Pour Nöschlin, elle dit, c'est tout à fait vain d'aller chercher des équivalents de Picasso, de Cézanne, de Delacroix ou de Rembrandt en femmes. Ça veut dire, on ne va pas les trouver. Elles n'ont pas eu l'opportunité de le faire. Qu'on retourne l'histoire de l'art et qu'on montre des femmes qui ont été des modèles, c'est super. Mais qu'on ne cherche pas à trouver là une égalité, parce que ce sera tout à fait inutile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des hommes et des femmes, enfin, il faut trouver des femmes et des hommes qui sont prêts à changer les structures, qui sont prêts à changer alors aussi les approches de l'éducation. Vous avez hérité de ça, hein. Ça veut dire le travail a été fait il y a une trentaine d'années. Et bon, je crois que la raison aussi pour laquelle on est là, c'est d'abord pour qu'on se rende compte d'où on vient, mais c'est aussi pour qu'on ne perde pas ça. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on a acquis quelque chose que c'est fini, hein. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et vous savez que pour le moment, Amnesty International, et bon, d'autres groupes alors aussi, sont tout à fait concernés par ce qui se passe aux États-Unis, où tout à coup l'avortement va de nouveau devenir illégal, où tout à coup l'homosexualité est de nouveau réprimée. Donc il y a comme ça toutes sortes de mouvements qui... c'est de balancier, hein, les choses vont et viennent. C'est un magazine, une année, c'est vrai que de temps en temps on évoque une artiste quand même au passage, mais je peux vous dire qu'après ça, pendant toute l'année 1971, 1972, 1973, il n'y a pas eu de reprise, hein. C'était quelque chose de tout à fait exceptionnel qui allait alors aussi avec la sortie du livre de Kate Millett. Ça vous a peut-être vu à Bruxelles tout récemment. Il y a une exposition pour le moment dans une galerie rue des Fabriques qui montre ce travail qui date des années 71-73. C'est un travail que Eleanor Antin a fait. Elle a acheté 50 paires de bottes dans l'armée américaine, des bottes en caoutchouc, et elle les a placées chaque fois dans des lieux, dans des sites. Avec ça, elle veut évidemment montrer la notion du déplacement, la notion des voyages, le voyage énorme, big generation, c'est les voyages, c'est être on the road, c'est vraiment d'être dans les mouvances. Vous avez deux photos différentes, une fois les bottes toutes rangées le long d'une plage, et puis une fois alors un peu comme, je sais pas, des poules ou quoi dans une ferme, hein, qui sont en train de squatter une automobile. Ce travail est associé aujourd'hui avec une action, une réaction par rapport à la guerre au Vietnam, en disant bottes militaires, conquête de territoire. Dans les textes de l'époque, j'ai pas trouvé ça. Mais ce qui se passe, c'est que tout à coup, chaque fois qu'elle fait une installation, elle fait une photo. Donc elle va faire une série de 51 cartes postales, qu'elle édite à 1000 exemplaires, et qu'elle envoie. Alors, c'est très très proche de ce que le japonais Onkawara va alors aussi produire, c'est vraiment I'm still alive. Et ici, elle ne va pas écrire I'm still alive. Elle parle même pas d'elle. Elle parle d'un he. Elle traverse, en fait, elle crée toute une histoire d'un homme, d'un certain homme qui portera une de ses paires de bottes avec tous les autres autour de lui et qui va créer alors une histoire. Et beaucoup d'œuvres produites par les femmes vont alors aussi avoir ce côté d'une narration, d'une histoire qui accompagne et qui est assez caractéristique. 50 paires de bottes, bon, ça en fait 100 au total hein, quand elles sont exposées. Ça va créer une exposition au MoMA, au Musée d'Art Moderne à New York en 1973. Et alors c'était en fait toutes les bottes qui étaient mises sur le trottoir et qui rentraient dans le musée où les cartes postales étaient exposées. Ils ont beaucoup cherché, hein, parce que c'était aussi ce côté alors où il y a peu de femmes qui ont participé au mouvement d'art conceptuel. Il y en a eu, mais ils ont dû vraiment chercher au MoMA pour en trouver une. Ils ont trouvé Eleanor Antin. Et ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est une femme dont vous avez sûrement déjà entendu le nom, peut-être vu des œuvres, c'est Louise Bourgeois. Alors Louise Bourgeois, elle travaille depuis les années 30. Ah ouais. Elle est née en 11. Elle est aujourd'hui, mais ça veut dire, je ne sais pas très bien dans quel état elle est aujourd'hui. On n'entend plus grand-chose. On sait qu'elle a par exemple fait poser une araignée sur la tombe de James Ensor, là, au stand. Je ne sais pas dans quel état elle est. Ça veut dire, ce sont ces choses un peu discrètes. Pour le marché de l'art, ce c'est bien qu'elle soit toujours vivante. Et le jour où elle sera morte, ce sera tout aussi bien, parce que ouf, ça va encore créer une plus-value de son travail. Mais Louise Bourgeois, je peux vous dire, vous pouvez demander, je ne sais pas, des artistes de la génération de vos parents, on n'en parlait pas. Hein. Si vous regardez les meilleurs catalogues de la sculpture dans les années 80, pas de Louise Bourgeois, aussi bien du côté américain que du côté français, alors qu'elle est dans les collections de Beaubourg depuis tout de même assez longtemps. Simplement pour vous dire que les femmes, elles doivent avoir beaucoup de patience. Elles doivent vraiment travailler pendant beaucoup plus longtemps. Plus peut-être pour votre génération, mais ça a été vraiment très caractéristique pour toutes ces générations d'artistes précédentes. Elles vont devoir continuer. Et c'est vraiment parce qu'il y a eu le mouvement des femmes et qu'on a commencé à chercher les femmes artistes que Bourgeois est sortie et elle avait plus de 60 ans. Au cas où ça vous intéresserait de faire une grande carrière dans le milieu de l'art, prenez tout avec patience, hein, parce que ça veut dire 60 ans, c'est encore un bon âge. Elle a commencé alors à faire un travail tout à fait différent à partir de ce moment-là. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vous montre ceci parce que c'est intitulé la No March. Donc c'est vraiment la marche pour dire non. Donc c'est reprendre de nouveau ce côté de manifestation, de ne pas vouloir accepter les choses comme elles sont, d'être contre la guerre. Les féministes sont pacifistes, hein, donc d'être contre la guerre au Vietnam, d'être contre les guerres alors aussi qui sont maintenues en Amérique latine. Vous savez ce que c'est, hein, c'est du, elle est sculpteur, hein, donc de formation, et c'est du marbre. Et ce sont des... Elle récupère, quand elle va travailler dans des, avec une bourse, hein, donc ça veut dire son mari va mourir, elle va finalement recevoir une bourse pour aller alors travailler en Italie. Et elle va récupérer les intérieurs des vases. On fait des vases en marbre, comme ça qu'on vend aux touristes ou bien aux amateurs de vases en marbre. Et elle récupère tous les intérieurs et puis elle les a placés comme ça. Hein, c'est vraiment pour créer cette notion de grande foule qui marche, qui avance. Je crois que ça doit être des troncs comme ça. Ça doit être... On voit qu'il y en a différentes tailles. Hein, elle a vraiment essayé de regrouper ça, pour les associer. Et ça, c'est... Un autre, il y a ce côté chez Louise Bourgeois qui peut être très organisé, bon, qui part de lignes bien marquées, mais ça c'est quelque chose alors qui marque beaucoup plus l'engagement de Bourgeois. Ah oui, mais ça c'est la qualité de l'image, elle est... Eh bien tant pis. Comme quoi, c'est une image qui est très résistante, on en parle presque jamais dans le monde de l'art, ça s'appelle la destruction du père, ça fait ça en 1975. Bon, je vais pas. Si vous voulez la voir, je vous la montrerai sur l'écran de l'ordinateur tout à l'heure. C'est une pure horreur. C'est vraiment, c'est horrible. C'est peut-être pas pour rien qu'on ne peut pas la voir. C'est des gros blocs rouges comme ça, bon, qui sont associés. C'est vraiment, c'est comme la tête, la gueule d'un monstre. Et elle raconte là une histoire où son père était très dominant et dans sa famille, à un moment donné, par révolte, ils vont décider de le tuer. C'est, bon, je fais un raccourci, je suis vraiment désolée, mais c'est ce côté alors aussi très freudien. Ça veut dire aussi les notions de psychanalyse, les notions d'études de caractère et des personnages vont être repris. Freud va dire, les garçons symboliquement tuent leur père, tant mieux pour eux, parce que c'est comme ça qu'ils acquièrent le langage, qu'ils acquièrent la force. Les filles sont des bonnes filles, elles veulent plaire au père, elles ne le tuent pas. Bon, bonjour, je peux vous dire, elle en a sans doute assez vu dans sa vie et... Elle décide alors de faire une œuvre qui s'appelle La destruction du père. C'est une destruction symbolique, c'est une destruction qui veut aussi montrer ce qui se passe dans la société, comment on voudra changer de nouveau les repères et les codes. Elle a écrit un livre, elle a édité un livre au début de 2000-2001, je crois, qui s'appelle La destruction du père. Elle a repris le titre et puis La reconstruction du père en sous-titre, montrant quand même quelque chose alors de probablement plus toléré, plus agréable. Ben, ce père, il peut avoir différentes images. Hein, ça veut dire aussi, Louise Bourgeois, elle va produire la destruction du père une fois que son mari sera décédé. Son mari était conservateur d'un musée d'art primitif à New York. C'était bien qu'elle se tienne bien, en fait, tant qu'il était vivant. Mais une fois qu'il était mort, elle a tout de même pu prendre alors aussi une autre part. C'était la condition des femmes. Ça veut dire aussi, en tant que femme, si vous vouliez vivre de vos propres deniers, comme les inégalités étaient tellement marquées, c'était compliqué, ça veut dire qu'il y avait très peu de femmes qui étaient alors aussi autonomes. Et aux États-Unis, à l'époque, bon ça c'est quelque chose qui remonte aux 1961 par Roy Lichtenstein, artiste pop, mais dans les années 70, et en fait encore toujours aujourd'hui, le premier employeur des femmes, c'est leur mari. C'est les maris, en fait, qui ont des salaires beaucoup plus élevés et qui entretiennent les femmes. Donc, ils ne vont pas non plus avoir cette autonomie. C'est là-dessus, alors aussi, qu'il va y avoir des réactions. J'ai choisi ceci, cette image-ci, parce que je crois que l'art pop, vous connaissez probablement bien, plus ou moins bien, parce que quand je regarde la femme, hein, qui dit que ce n'est même pas une bague de mariage ou de fiançailles, on ne sait pas du tout ce qui se passe, elle a l'air un peu menaçante, hein. C'est vrai que lui a l'air plus petit là-bas derrière, mais c'est surtout quand je vois le type de femme, je me dis, on n'a pas encore tellement bougé. Hein. Quand vous voyez des Nicole Kidman, bon, qui sont des bonnes actrices, hein, Sharon Stone, on est encore toujours dans le même prototype Barbie blonde qui avait alors été imposée à partir des années 45, enfin surtout 50, hein, c'est vraiment le truc Marilyn Monroe. De nouveau, par rapport à ses rapports de sexe, ses rapports de pouvoir, ses rapports d'intimité, hein, parce que c'est la sphère intime que les femmes vont questionner dans le rapport de femme par rapport à homme, dans la société, mais certainement alors aussi dans le foyer, dans la famille. Vous avez ici une peinture de Joan Semmel qui s'appelle Intimacy Autonomy. Alors ici, ce qu'on va voir, c'est que, d'abord, c'est très américain. C'est vraiment ce côté, on a ce côté, on est en 1974, on a ce côté d'espace. C'est vraiment, on vient d'avoir fait des voyages jusque sur la Lune. Il y a ce côté comme ça, d'infini, il y a ce côté de hyper-réalisme, qui est un mouvement qui est très développé en Amérique aussi, à partir d'une photo réalisée, une peinture. Côté de paysage, hein, par rapport au corps. Et puis, il y a cette recherche d'égalité, hein, d'autonomie, ce qui va montrer alors aussi que la femme pourrait ou est l'égale de l'homme, tout en ayant toute une différence biologique, anatomique à montrer. Je sais pas si vous connaissez Georgia O'Keeffe, qui va être alors aussi une artiste américaine qui va réaliser des aquarelles, des petites peintures, mais où il y a tout ce côté alors aussi d'espace et ce côté américain qui va apparaître. Je l'ai reprise aussi parce que vous connaissez ce petit kit que les astronautes ont laissé dans l'espace, où il y avait alors différents objets, des terriens, et entre autres il y avait un dessin d'un homme et d'une femme, et l'homme dit bonjour. La femme, ils sont tous les deux tout nus, hein, comme ça, si jamais il y avait de la vie ailleurs, malheureusement, je n'ai pas fait de repro de ça, mais Laurie Anderson va l'utiliser dans plusieurs de ses performances. La femme est là, debout, à côté, elle ne fait rien, et l'homme dit bonjour, comme ça, si jamais un martien, ou je ne sais pas quoi, les voit, eh bien, il sait qu'on est très gentil sur Terre. Ils sont tous les deux tout blancs, hein. Ils n'ont pas de couleur de cheveux, mais ça veut dire probablement tout blond aussi, hein. Ça va de nouveau montrer ce côté d'une certaine société, en fait, qui veut prendre la parole, parler pour les autres. Bon, ben, ça veut dire, il n'y a rien de plus romantique que l'amour, hein. Ça veut dire aussi, je parlais des lesbiennes, je vais revenir à elles tout à l'heure, bon, c'est ce côté hétérosexuel qui vient de passer maintenant, mais ce que les femmes vont faire, c'est de dire, on doit se regrouper, on doit trouver des liens ensemble, et ici, vous avez une photo de groupe des rédactrices, donc des femmes qui vont travailler pour cette revue Hérésis. Elle n'est pas là par hasard, je vais vous parler de Lucy Lippert. Alors ça, c'est une historienne de l'art qui a étudié le mouvement Dada, qui a écrit sur le surréalisme dans sa toute grande jeunesse, qui va former, qui va faire les meilleurs livres sur l'art conceptuel et sur l'art minimaliste. Elle va vraiment aller chercher les artistes. Et qui tout à coup, début des années 70, en ayant rencontré beaucoup de femmes artistes, dit « n'en parle jamais les femmes ». Elle dit d'ailleurs, moi je déteste qu'on me dise que je suis une auteure féminine. Elle préférait sucrer son prénom en disant, c'est toujours de se retrouver dans une position où c'est un peu inférieur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va réunir, qu'elle va chercher alors aussi à travailler avec uniquement des artistes femmes. Donc vraiment à partir des théories féministes. À côté d'elle, vous avez Mimi. Alors, je ne sais pas dire son nom, Shapiro, je ne sais pas très bien comment prononcer ça, entre deux, entre l'anglais ou l'américain et le français, qui est artiste et qui, avec une artiste dont je vais vous parler tout de suite, Judy Chicago, va créer la Maison des Femmes en Californie. Elles vont créer un lieu où elles ne vont s'adresser, elles ne vont enseigner que aux filles. En disant, voilà, il leur faut des modèles, il faut qu'elles comprennent, il faut qu'on y aille. faut qu'on construise à partir de ça. Et encore à côté d'elle, il y a alors celle qui a réalisé la photo, Mary Beth Edelson. Je parlais de Edelson tout de suite, elle a fait un collage qui est resté alors aussi tout à fait emblématique dans le monde de l'art. Alors vous voyez qu'elles ont toutes leur personnalité, leurs caractéristiques. Elles travaillent, hein, ça veut dire aussi, il ne faut pas croire qu'elles gagnent leur vie en étant artistes. Elles ont vraiment toutes sortes d'autres boulots à côté. Une artiste dont il y a une œuvre, en tout cas dans une collection ici en Belgique, et c'est dans la banque ex-BBL aujourd'hui, ING, c'est assez abstrait. Enfin, je viens de la voir hier, donc c'est un travail d'aquarelle sur papier. Mais ici, c'est en fait un diptyque, c'est un morceau d'une peinture qui va... moi-même, je suis obligée de regarder les noms, parce qu'elle s'appelle Sylvia Schleig. On ne la connaît pas du tout. Mais dans tous les magazines d'art, on va en fait ressortir ceci. Et elle fait un tableau, enfin un double tableau, où elle montre toutes les artistes peintres de l'époque. Alors, Sylvia, c'est la blonde là-dessus. Et vous voyez qu'elles ont de nouveau toutes beaucoup de personnalité. Enfin, moi, j'y peux rien. Ça veut dire, en tant que femme, quand je regarde cette peinture, je regarde toujours les sandales ou les pantalons. J'ai toujours envie de savoir, en fait, ouais, pas mal... parce qu'elle a trouvé ça, enfin, du côté des modes. Et vous voyez qu'à l'arrière, il y a une peinture, alors de Sylvia, où l'homme est allongé, la femme n'a pas de tête, ça je trouve en fait très mauvais goût, mais la femme est assise et c'est l'homme qui est allongé, ça contraste alors un petit peu avec ce qu'on a dans les représentations classiques. Et ceci aussi, c'est un gros contraste avec les représentations classiques. Je peux vous dire, c'est du jamais vu en Europe, hein, ça veut dire, pour moi, c'est nouveau quelque chose de très américain. Ce sont des critiques d'art qui sont représentées en bain turc. Alors là, évidemment, elle a eu beaucoup de plaisir. Ça, je peux vous dire, on l'a vu dans tous les magazines d'art aussi. C'est vraiment... Vous avez... alors, il va y avoir toute une... On va pas... Ici, vous voyez que c'est le même modèle qui revient deux fois. C'est Paul Rosano. C'était alors ce côté chevelure Angela Davis, un côté révolutionnaire qui va apparaître. Lawrence Alloway. Vous avez peut-être déjà trouvé des textes de lui. Carter Radcliffe, enfin il y en a comme ça plusieurs qui sont représentés, repris, tout nus, vulnérables, dans leur bain turc. Et de nouveau, avec ce côté très américain, vous voyez que c'est vraiment la structure du loft, et puis le tapis, hein, qui va faire référence de nouveau à la production artisanale indienne, Navajo. Hein, donc c'est vraiment alors aussi ce côté où directement pour eux, ça va vouloir dire typiquement américain. Avec ce côté de groupe, donc on a vu que c'était vraiment ce qu'elle recherchait, il va y avoir alors aussi des allusions qui vont être faites par les artistes, en tout cas ici par Mary Beth Edelson. Elle fait la dernière scène qui montre toujours en fait une réunion d'hommes qui sont repris, bon, c'était la fête de Pâques là, pour les chrétiens. Ils vont alors aussi reprendre ce moment de réunion de tous les apôtres autour de Jésus. Jésus ici, c'est Georgia O'Keeffe. Vous avez Yoko Ono là-bas tout au bout. Louise Bourgeois, une photo où elle est encore assez jeune. Alors, je peux vous dire aussi, moi je suis complètement déformée par mes propres recherches et par les modes, hein, parce qu'une artiste dont on a parlé dans les années 70 et 80, c'est Louise Nevelson, et on ne parle plus d'elle aujourd'hui. Elle travaille de manière beaucoup plus proche de l'abstraction, hein, de l'assemblage et de l'abstraction, qui était alors fort en vogue à l'époque. Vous avez Krasner... Excusez-moi, son prénom m'échappe, qui était la femme, Hélène Krasner, qui était la femme de Jackson Pollock, donc qui a aussi produit toute une œuvre. Et puis ici, on a Linda Benglis. Et Benglis, je vais vous en reparler tout de suite, elle a fait des choses qui ont vraiment alors aussi bouleversé le monde de l'art. Avant de parler de Benglis, petite parenthèse pour Judy Chicago, vous connaissez ? Donc Chicago, elle va aussi prendre... un pseudonyme, elle va choisir le nom de la ville de Chicago parce que c'est dans cette ville-là que vont émerger la plupart des manifestations pour les droits civils, c'est-à-dire contre le racisme et pour les féministes. Elle a toute une œuvre derrière elle, c'est une artiste qui a du succès et elle s'est rendue compte que les artistes de sa génération, donc elle est née dans les années 30, elle va commencer son travail dans les années, bon, fin des années 50, enfin, début des années 60, et elle va dire, mais les femmes, elles disparaissent. Ça veut dire aussi, moi, en tant que femme, on me donne des bourses, on m'achète des œuvres, mais on montre jamais que la même œuvre. Tandis que je vois bien que chez mes collègues, hommes, on va alors, chaque fois qu'ils voient quelque chose de nouveau, le reprendre, le récupérer. Et donc, elle va vraiment lancer avec Mimi Scapiro, elle va essayer de montrer comment les femmes pourront alors beaucoup plus se défendre par elles-mêmes. À partir de 1974 et jusqu'en 1979, elle va créer un collectif avec des femmes, un peu style travail que Andy Warhol va faire aussi, il va travailler avec beaucoup de personnes, et elle va produire ce qui s'appelle la Dinner Party. C'est un énorme triangle qui fait une table, de nouveau, pour réunir chaque fois 13 femmes, donc de nouveau reprendre cette idée de dernière scène, et reprendre aussi l'idée de la congrégation des sorcières. On vous regarde, les garçons. Ça veut dire, je sais pas s'il faut faire ce genre de remarque, hein, mais c'est, tout à coup, je vois qu'il y a des regards qui filent par chez vous. Donc moi, je sais pas si vous avez des questions. Il y a beaucoup, hein, ça veut dire, j'avais dit au départ, c'était vraiment un peu excessif. Ça va, vous tenez le coup vous... Oui. Bon, atelier, hein, c'est vraiment avec... Malheureusement, la Chicago qui fait rien, toutes les autres qui sont au travail, hein, c'est vraiment, c'est pas une très bonne publicité pour elle. Elle va se faire méchamment critiquer parce que pour elle aussi, c'est typiquement féminin de par en fait le trou central, hein, qui va faire référence alors au vagin, alors à l'identité des femmes. Alors ça va faire partie de ce qui va apparaître dans les glorifications. Au passage, je vous montre Andy Warhol, de nouveau dans les années 60, il est encadré par deux femmes, bon, il était beaucoup plus encadré par des hommes, mais ces deux femmes sont assez particulières parce que l'une, c'est Diva, c'est en fait un travesti, et l'autre, c'est Birgit Polk, et c'est une lesbienne, et elles vont être extrêmement proches de Warhol, elles vont beaucoup l'aider, beaucoup le construire. Monique Wittig dit en fait que les hommes ont de la chance parce qu'ils sont toujours au moins deux femmes pour leur servir, c'est la mère, puis l'épouse. C'est vraiment... Et c'était ça aussi la disparition des femmes artistes, c'est qu'elles se mariaient ou elles vivaient avec un artiste et elles faisaient que l'artiste y arrive en s'oubliant, en s'effaçant complètement elle-même. Quelques années plus tard, après cette photo, il va se faire tirer dessus par une femme dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, c'est Valérie Solanas, hein, qui a écrit un manifeste qui s'appelle Scum. S-C-U-M, c'est Society for Cutting Up Men. Scum, ça veut dire sperme, hein. Ça veut dire, c'est vraiment, elle va jouer évidemment sur les deux registres. Il est terrible, hein, ça veut dire, elle va vraiment montrer la fin. Mais si vous lisez Burroughs, lisez Solanas, hein, ça veut dire, quelque part, c'est que vous n'avez pas peur. Hein, c'est vraiment ce côté, alors aussi, où on va vous annoncer des choses complètement démesurées pour proposer, alors aussi, un déplacement, en fait, de la pensée. Il n'est pas mort, ça veut dire qu'elle a été prise probablement d'un accès de folie, enfin je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, elle était furieuse parce que Warhol, qui l'avait beaucoup soutenue, tout à coup, quand elle vient, elle dit « je veux éditer mon livre, je veux que tu m'aides à le produire », il ne l'écoute pas. Et elle, de rage, paf, elle tire dessus. Mais elle étant toujours en prison, hein, ça veut dire simplement par rapport à Burroughs qui avait accidentellement tué sa femme. D'autres vont alors aussi avoir des femmes qui vont disparaître, on ne les poursuit pas avec autant d'acharnement que les femmes. C'est normal, les femmes donnent la vie, elles ne peuvent pas la prendre. Hein. C'est vraiment ce côté, on ne peut pas avoir tous les pouvoirs de tous les côtés. Alors c'était bon, justement pour passer de ce côté plus de glorification, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des images de femmes, des images de femmes fortes. Alors ici, c'est une photo qui nous montre la Louise, c'est une photo qui a été faite en 1970. Et elle avait fait un costume en latex, avec toutes ces blobs, hein, ça va d'ailleurs un peu ressembler à ces formes qu'elle avait reprises dans la destruction du père. Et la photo, elle va paraître en 1980 dans le magazine Vogue. Alors c'est justement quand elle va commencer à sortir sur la scène artistique de manière plus reconnue et que les femmes vont avoir fait alors aussi tout un travail. Et vous voyez qu'elle est juxtaposée, son document, avec la Diane, l'Artémis d'Éphèse. On l'a interprétée pendant assez longtemps... tous ces petits bonbons comme ça qu'il y avait sur sa poitrine, comme des saints, hein, de la charité qui pourra nourrir le monde entier. Ça a été interprété comme des œufs, donc de nouveau un principe de vie, de naissance. Très récemment, on a changé, parce que ça, les théories de genre aussi, c'est qu'on ne va plus mettre que les femmes en l'honneur, on va alors quand même aussi refaire une place pour les hommes. On a proposé d'y voir des testicules d'hommes, hein, parce que du coup ça allait redonner alors aussi un pouvoir associé entre l'homme et la femme. Alors celle-ci, moi je suis toujours contente de la présenter parce que je me rappelle quand j'ai vu cette image pour la première fois il y a plus de 20 ans, j'étais tout à fait étonnée, bouleversée. Je me disais, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez que c'est la reprise. Hein. Donc, on a l'image là, de Bourgeois et de la Diane d'Éphèse. Eh bien, ça, c'est en fait une performance qui a été faite par Betsy Damon. Damon travaille toujours. Elle a là aussi une bonne vingtaine d'années, une petite trentaine d'années. Et aujourd'hui, elle est devenue une éco-féministe. Donc, elle travaille sur des principes écologistes. Elle travaille beaucoup sur les problèmes de l'eau. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment de la réalité. L'eau est vraiment en péril, en danger. Donc, elle, en tant qu'artiste, c'est là-dessus, en fait, qu'elle veut agir, qu'elle veut travailler aussi comme activiste. Mais ici, elle est, en fait, dans une performance de rue qui s'appelle « La femme de 7000 ans hein, ».« The 7000 years woman ». Elle est remplie des sacs avec de la farine. Et bon, c'est tout un rituel hein, où elle va se déplacer en spirale, créer une sculpture avec de la farine sur le sol. Et pour moi, ça veut dire, je trouve que l'image est très très forte hein, quand on la voit comme ça. Elle va proposer alors aussi aux autres de prendre la farine et de la ramener chez eux. Mais la farine, de nouveau, c'est ce côté de semence, hein, de fertilité, de nourriture. Et elle dit, en faisant cette performance, j'ai senti quelque chose de très très fort en moi. J'étais un oiseau, un clown, une artiste stripteaseuse, la déesse de la fertilité, une lumière lourde. J'étais sensuelle et belle. Donc ça veut dire, elle va associer à ça toutes sortes d'images. Pour moi, la stripteaseuse, par exemple, j'y penserai jamais. Mais c'est comme elle perce et que la farine va s'écouler. Eh bien, il y a aussi ce côté alors aussi où elle effeuille, elle enlève. Dans la rue toujours, on retrouve alors ici toujours au début des années 70, au milieu des années 70, c'est Laurie Anderson. Elle fait un duet on ice sur la glace. En effet, je ne sais pas si c'est très visible. Elle porte des patins à glace qu'elle a en fait pris dans un bloc de glace et son duo. Vous voyez qu'elle est toute seule, mais qu'il y a alors, enfin, on ne les voit pas, mais il y a des baffles. Hein, donc il y a en fait une répercussion de la musique qu'elle est en train de produire. Il y a un film qui va passer, on ne le voit pas trop bien non plus. Et elle va faire la performance le temps de la fonte de la glace. C'est pas une virtuose du violon. Elle a beaucoup employé le violon, elle l'emploie de manière tout à fait extraordinaire. Je sais pas très bien l'effet que ça va produire. Elle va raconter alors aussi une histoire de son enfance qui sera traduite par, ça se passe en Italie, par un Italien. Ça devient une histoire tout à fait différente, mais c'est ça aussi qui l'amuse, elle, hein, c'est ces notions de traduction. J'ai choisi cette photo-là parce qu'elle sera décrite à plusieurs reprises par des critiques américains en disant « c'est la Madone du Midwest ». Elle la voit tellement angélique, tellement belle, qui va se transformer quelques années plus tard en punk électronique. Et alors là, il ne faut plus du tout comprendre comment elle, qui peut être si angélique, si féminine, peut choisir un autre registre. Toujours dans les notions de divinité, de glorification, cette notion de déesse-mère, déesse-terre, le travail de Ana Mendieta. Et Mendieta est d'origine cubaine, émigrée, conséquence politique, aux États-Unis. Et elle va très souvent refaire son propre corps, sa propre silhouette dans la terre. Bon, ici, qu'elle va remplir d'explosifs et ça va alors flamber. Donc c'est vraiment ce côté aussi de feu, de destruction, d'apparition, de terre, de corps. C'est la pleine période du land art. Les grands artistes du land art vont faire des grandes formes géométriques dans le paysage, dans les déserts par exemple. Elle va travailler sur son corps de femme. Ana Mendieta est morte à l'âge de 36 ans, accidentellement. Elle est tombée par la fenêtre. Enfin bon, tombée, est-ce qu'elle s'est jetée ou est-ce qu'elle a été poussée? Tout ça, l'histoire ne nous le dira pas de sitôt. Son mari est un artiste très connu et il n'y a pas eu de suite non plus. Ça veut dire, je vous le dis au passage, ça veut dire, c'est bien dommage pour Carl André, pour le nommer, alors quitter son mari. C'est vrai qu'il y avait probablement des tensions dans ce couple, mais c'est assez bizarre. Je crois que si c'était lui qui était mort, tombé par la fenêtre, alors qu'elle aurait été dans l'appartement, en tant que cubaine, elle aurait beaucoup plus difficile à s'en sortir. Soyons gentils. Alors, voici une page de publicité. Et vous avez une peintre. Donc, c'est 1971, c'est dans le même magazine que l'art par les femmes. Je vous la montre parce que on a aussi cette association femme-nature. Et les féministes vont dire, les artistes du land art qui creusent, qui attaquent la nature, ben quelque part aussi, c'est leur manière d'être violent avec les autres, avec les corps. Et ici, par contre, on a tout ce côté comme ça, très romantique, la femme qui peint un paysage. Je ne sais pas si vous savez lire d'aussi loin que vous êtes, mais bon, la publicité, c'est l'herbe est toujours plus verte quand elle est peinte avec du Liquitex. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cette peinture acrylique, je ne sais pas si ça existe. Mais le texte va commencer, comme beaucoup le savent, la peinture de paysage est beaucoup plus belle à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais si vous employez telle peinture, ça va changer. Le mois d'après, il y a une publicité pour le même produit. Mais vous voyez que cette fois-ci, c'est un homme, il ne travaille pas dehors. Hein, ça veut dire que cette histoire de peinture impressionniste, on l'a bien rangée. C'est quelque chose de super moderne. Vous voyez qu'il est en train de peindre une œuvre abstraite avec cette technique, qui est d'ailleurs nommée comme une technique ingénieuse, hein, de maquillage, où il va alors aussi utiliser les trois couleurs primaire, et certainement pas le vert, qui avait alors aussi été complètement banni par les artistes abstraits de la première vague. Alors je vous montre ça parce que ici, le texte, c'est « you ». C'est, de nouveau, on va voir que le commerçant, il va s'adresser à l'artiste, et l'artiste, c'est un homme, hein, ça veut dire une femme artiste, c'est un être hybride qui essaye de trouver une place dans la société, mais un artiste, ça tout le monde, en fait, il va bien s'y reconnaître, en tout cas en consultant les magazines. Ces magazines sont lus par les artistes et ils sont lus alors aussi par les professeurs d'art, qui sont d'ailleurs pour la plupart aussi ces mêmes artistes. Maquillage et bon, travail sur les formes. Peinture, alors c'est ce côté très classique, très académique, qui continue d'avoir une place hein, dans le monde de l'art. Et puis ici, photographie, c'est le travail de Lynn Hirschman, qui vit toujours. C'est une artiste qui travaille aujourd'hui avec des technologies de pointe en Californie. Elle a commencé à faire un travail, en tout cas elle a commencé d'être connue par un travail où elle va inventer un personnage qui s'appelle Roberta. Et bon, ici, elle va construire la charte de Roberta où simplement elle va montrer quel maquillage elle doit utiliser. Mais si vous regardez bien, vous voyez que ça fait un peu comme une carte météorologique sur son visage. Elle va s'amuser à faire tout un dessin. C'est très lié au féminin aussi, cette notion de maquillage, de mascarade. Les théories féministes vont dire, et Judith Butler, qui est fort abordée alors aussi par le travail de Preciado, elle va montrer le côté qu'on interprète. Ça veut dire, si vous voulez être un homme, eh bien vous jouez l'homme. Si vous voulez être une femme, vous jouez la femme dans la manière dont vous vous présentez, dans la manière dont vous voulez penser. Ça veut dire que c'est quelque chose où on continue chaque fois de faire ses présentations. Après ça, elle va faire un travail, alors toujours à partir des planches contact, hein, où vous avez tous les codes de comportement. Hein, donc, et cette Roberta, elle va alors avoir de plus en plus de succès. La notion du corps, elle est aussi tout à fait exploitée et travaillée par Hannah Wilke. Et Wilke va travailler sur une forme, et c'est la forme vaginale. Alors, je peux vous dire, moi je travaille, en tant qu'historien de l'art, je travaille en musée, ce n'est pas du tout le genre de terme qu'on utilise. Hein, ça veut dire, de temps en temps, peut-être qu'on peut évoquer ça, mais pour la plupart, en Belgique, en tout cas, on a encore ce côté très très prude. En fait, ici, ce sont des photos qu'elle a faites tout au long d'une performance où elle va distribuer du chewing-gum et elle va demander en fait au public de mâcher du chewing-gum qu'elle va resculpter en petite forme labiale de lèvres et qu'elle va placer alors sur son corps. Ça s'appelle starification, hein, donc c'est vraiment des notions de petites étoiles, mais aussi scarification, et elle part alors de son identité de femme juive née en Amérique en 1942, qui a connu un destin et un parcours tout à fait différent. Je suis à la numéro 34, donc je crois que je vais bien accélérer. C'était une photo de Robert Mapplethorpe, de Cindy Sherman. C'est simplement parce que je parle du corps et qu'on a commencé à regarder les corps dans la photographie, certainement à partir du travail de Cindy Sherman, fin des années 70, début des années 80. Sherman, elle est l'héritière de toutes les femmes dont je viens de vous parler. Eleanor Hantin qui va faire un travail qu'elle appelle carving, donc en tant que sculptée, Et elle fait un régime pendant 5 semaines, elle va réussir à perdre 3 kilos, et elle fait en fait 4 photos par jour que vous lisez de manière verticale. Alors, je vous ai dit que Linda Benglis allait faire parler d'elle, et elle a fait parler d'elle méchamment parce qu'elle avait droit à une page, une double page, dans le magazine Art Forum. Et elle a droit à cette double page dans un magazine à l'époque où elle a une exposition dans une galerie. C'est une sculpteur, elle va travailler de manière très abstraite, elle va travailler avec des couleurs, elle va travailler sur des explorations de l'espace, sur des notions d'installation qui sont toutes nouvelles à l'époque. Et elle a sa double page, elle dit, en fait, ça ne m'intéresse pas, je préfère placer une publicité. Non, je voudrais placer ça. Mais non. Et du coup, elle achète, enfin sa galerie, il va acheter l'espace dans le magazine et ils vont placer la publicité, bon, elle n'est pas très lisible là, mais qui a fait la photo, où l'exposition va avoir lieu. Et elle se présente avec un énorme godemichet. Hein, c'est vraiment montrant, alors, d'une part, elle va un peu se moquer des féministes qui vont toujours, alors aussi, vouloir glorifier le corps des femmes, montrer l'importance des femmes, en disant, vous savez, dans le monde de l'art, hein, ça reste tout de même un monde tout à fait phallocentré, un monde où sont les hommes qui prennent la parole. Elle a, à cette époque-là, une relation avec Robert Morris, qui lui se présente, alors aussi, sur une affiche d'invitation, complètement pris dans des attirails de SM. Donc ils vont faire exploser alors aussi le monde de l'art. Le monde de l'art en introduisant des codes qui n'appartenaient pas au monde de l'art à ce moment-là, ou en tout cas qui étaient très cachés. Les éditeurs du magazine Art Forum vont en fait menacée de démissionner après qu'elle ait présenté ça. Ils sont furieux. Hein. C'est quelque chose qui va créer, alors aussi, auprès du public qui lit le magazine, tout un tollé. Je suis désolée parce qu'elle, elle fait ça aussi pour montrer à quel point la vie privée, les anecdotes prennent de l'importance par rapport à l'œuvre. Vous voyez que je ne vous montre rien d'autre d'elle, sauf bon, cette image-là. Et il y a ici aussi une petite image d'une vidéo qu'elle a faite qui s'appelle « La female sensuality », la sensualité femelle, femme, deux femmes qui s'embrassent, elle et une de ses amies, pour introduire alors de nouveau aussi le code lesbien dans l'iconographie. C'est quelque chose qui, dans les années 70, est complètement inconnu, enfin pas inconnu, pas toléré, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Autre image emblématique, c'est le cunt art. Je ne pourrais pas traduire ça par l'art con parce que c'est vraiment trop basique au niveau de la traduction. Donc moi, j'appelle ça art vaginal. Et de nouveau, c'est très moi, ça me laisse très perplexe parce que de nouveau, on a beaucoup de contradictions. Les féministes et certainement les lesbiennes vont dire, écoutez, cette histoire du mythe, cette histoire de l'orgasme vaginal, c'est un mythe. Ça veut dire, ça va vraiment circuler, on va distribuer des tracts, on va commencer à mettre toutes sortes de questions, de questionnements par rapport aux pratiques sexuelles. Elles vont parler alors évidemment de l'orgasme clitoridien, mais on va continuer de voir dans la production tout ce rapport alors au vagin, à la vulve. Et ici, ça s'appelle en fait le rouleau intérieur, le interior scroll. C'est toujours Carolie Schneemann qui est là, qu'on avait vu au début là, dans des performances avec Robert Morris par exemple. Et elle tire, elle est nue. Ça va se passer devant 35 personnes, 35 femmes. Hein. Ça veut dire qu'il reste une image de ça. Et tout le monde connaît cette image, on la commente très très souvent. Et elle tire un rouleau, donc un peu vraiment comme un cordon ombilical. Et c'est un texte qu'elle a écrit. Donc c'est vraiment aussi comment la parole va venir de son identité sexuelle, de son identité en tant que femme. Eva S., vous avez sûrement entendu parler d'elle, hein, donc ça veut dire aussi, bon ici c'est beaucoup plus minimaliste, on va d'ailleurs appeler son œuvre, elle est déjà morte, elle ne prend pas de décision là-dessus, on va l'appeler post-minimaliste, mais vous voyez qu'elle travaille le cube, mais à l'intérieur duquel elle va faire passer alors des petits tuyaux de caoutchouc, avec ce côté de sensualité. Quand c'est exposé aux États-Unis à la fin des années 60, le public se mettait dedans. Et il va y avoir toute cette notion de nouveau de matrice, de côté, alors de nouveau tout à fait organique, associé à une production de femmes. Pour Eva S., elle a beaucoup souffert d'être une femme dans le milieu artistique. Elle a dû beaucoup se battre pour pouvoir y arriver. Bon, elle est morte très très jeune aussi d'une tumeur au cerveau. Et elle va dire « l'art n'a pas de sexe ». Malheureusement, les artistes en ont un. C'est vraiment... Et de nouveau, c'est par rapport à cette identité-là alors qu'il va falloir bouger. De nouveau, le travail de Judy Chicago, donc qui va, elle, développer un discours sur le trou central en disant, voilà quelque chose de très féminin. Les féministes vont dire, au bout d'un moment, vont dire ras-le-bol. Hein, c'est vraiment, on en a marre de ce truc. On ne peut pas parler uniquement à partir, en fait, d'un phénomène biologique. C'est trop essentialiste et ça va créer, en fait, des notions de différence qui n'ont pas de valeur. Hein, c'est vraiment ce côté, alors, de nouveau... trop accroché. Ça, je vous le montre parce que c'est quelqu'un beaucoup plus jeune, c'est Zoé Léonard, qui est née dans les années 60 et qui, lors de la Documenta en 1992, Documenta 9, a exposé des petites photos en montrant des pubis, montrant des vagins, dans une galerie tout à fait classique. Et je me rappelle que tout le monde était sur son cul. C'était comme si on n'avait jamais vu ça. Où est-ce que cette femme avait été chercher ce truc? C'était vraiment un bouleversement énorme. Donc, il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans les années 70. Ça a complètement disparu. Et 30 ans ou 20 ans plus tard, on recommence, mais dans une société qui regarde les choses alors tout de même aussi autrement. Portrait de Louise, on voit presque rien, mais Louise porte une poupée qui s'appelle Fillette. Alors ça, c'est ce côté alors aussi où de nouveau, il y a l'autre tendance. Fillette, c'est un grand pénis hein, qu'elle a réalisé. Elle est toute mignonne, hein, elle rigole. Elle a déjà 70 ans là. Et elle raconte l'histoire suivante. C'est Mapplethorpe qui propose de lui faire son portrait. Et elle dit, oui, celui-là, c'est un drogué. Il me demande de venir à 2h de l'après-midi. Il ne sera même pas réveillé. Je vais plutôt prendre quelque chose qui va le surprendre. Et elle se met un manteau en poil de singe et elle prend une sculpture pour se donner aussi de l'assurance, parce que ce n'est pas très facile d'aller poser dans un studio. Et elle arrive avec ça et c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est très, très fort. Hein, c'est vraiment... Il y a tout un côté d'ironie, de blague qui va apparaître. Vous la reconnaissez? Malgré le peu de contraste? Non? Oui? Oui, par rapport à Burroughs, elle est très très importante aussi. Hein. C'est vraiment, c'est de nouveau dans cette lignée de la poésie. Alors, voilà vraiment une poète qui va travailler, qui va faire plusieurs fois des interviews avec William Burroughs. Et elle va dire ce que les féministes vont dire par rapport au monde de l'art visuel. Elle va dire à quel point le monde de la musique est un monde corrompu. C'est vraiment, et elle dit, et il faut vraiment beaucoup de force pour tenir, pour se maintenir là. Mais se maintenir là, c'est plus important parce que même en sachant que tout le monde est corrompu, que vous propose la corruption à tout moment, vous pouvez la refuser et vous pouvez continuer de faire quelque chose. Elle aussi, tout récemment, elle a refait des textes par rapport à ce qui se passe à Bagdad, par rapport à ce qui se passe en Irak. Patti Smith, elle était là parce qu'elle a ce côté androgyne. Ça veut dire qu'elle va jouer sur le code masculin, la cravate, la chemise blanche... vraiment quelque chose alors aussi qui est tout à fait particulier à son travail. Je continue, ça va? Est-ce que vous voulez poser des questions? Vous voulez dire quelque chose? Parce que moi, je peux encore continuer comme ça pendant longtemps, mais je me dis aussi peut-être qu'il y a une forme...
Dans le timing, hein, oui. Est-ce qu'éventuellement, je ne sais pas,
pour moi, certainement, pour vous aussi, oui.
Je ne sais pas dans où on est exactement. Oh oui, bon, on est presque à la fin de la deuxième partie. C'est ça.
Je crois qu'après ça, il reste le lieu comme elles l'ont exploité.
Parce que alors, je me disais que peut-être les derniers points,
oui.
Les dernières articles, Jamie Roser, etc., ça sont peut-être intéressants peut-être de terminer avec eux. Je ne sais pas si on aura le temps de pouvoir si
c'est pas grave.
Poser des questions.
Ouais. Je préfère. Oui. Ouais. Tout à coup, je vois aussi le temps qui avance. J'ai l'impression que je vous assomme là. Tout à coup, c'est vraiment too much. C'est là que vous la reconnaissez. Hein. Ça veut dire aussi, c'est incroyable quand un homme fait en fait une petite moustache, une petite barbichette à la Mona Lisa. Ça reste dans l'histoire de l'art. Je peux vous dire, j'ai l'impression que vous n'avez jamais vu ça. Pourtant, c'est une magnifique photo. C'est de nouveau Eleanor Antin et elle va interpréter un personnage qui s'appelle le roi. Et le roi, il vient dire des choses. En fait, elle est postichée, hein, elle a mis une barbe et moustache. Et elle s'adresse à des surfers, hein, des gars là-bas en Californie qui font du surf. J'adore cette photo, hein, j'adore la manière dont on voit les regards, ce côté un peu sceptique. Hein, celui-là, il a décidé qu'il n'écoutait pas. Celui-là, il regarde comment l'autre va finir par répondre. C'est vraiment, il y a quelque chose de très très fort dans le moment, avec de nouveau tout ce côté californien qui apparaît dans l'image. C'est presque un Jeff Wall. Un Jeff Wall, il compose des images comme ça. Elle a joué là-dedans. Donc, je vais vous emmener Laurie Anderson, de nouveau. Laurie Anderson, elle a fait toute une tournée avec William Burroughs. Elle a aussi choisi un code plus neutre, c'est-à-dire plus masculin. Avec ce côté, bon, ça veut dire, c'est les années 80, on ne peut pas non plus comparer ça avec ce qui s'est passé dans les années 70. On sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment radicalement différent. Et je ne sais pas si vous avez abordé ça dans les cours, mais tout le côté sonore, tout le côté audio est très très important. Ça veut dire qu'il y a tous ces enregistrements qui sont alors tous souvent repris aussi dans le monde de la musique avec les voix de Burroughs et que Anderson va exploiter aussi. Quand Patti Smith faisait ses premiers concerts, vous savez ce qu'on lui criait, « Retourne dans ta cuisine hein. ». C'était vraiment ce côté alors aussi où, en tant que femme, elle a pu prendre aussi beaucoup de claques de la part du public pour amener quelque chose alors qui va rester dans l'histoire. Ça, je l'aime bien aussi parce qu'elle est en train de trier des diapositives. On a la chance d'avoir Laurence Rassel ici qui s'occupe beaucoup d'archivage. Toutes les archives féministes ont été d'abord faites sur diapositives. Donc c'est vraiment ce côté, alors aussi, c'est devenu quelque chose de tout à fait obsolète, mais on la voit ici au travail, elle travaille tout le temps. Ça veut dire dans les années 70, les années 80, elle travaille tout le temps. Quand il y a une interview qui va se faire avec Andy Warhol, il dit « Ah mais je pensais que vous étiez anorexique hein, », parce qu'il la voit toujours tellement speedée, en train de travailler. Histoire de la diapositive, et puis alors, il y a l'histoire des lieux. Quand je vous ai annoncé les lieux tout à l'heure, les femmes ont trouvé des lieux pour exposer, vous savez ce qu'elles ont fait hein, elles ont squatté. Elles ont trouvé des vieux hôtels désaffectés, elles ont trouvé des maisons abandonnées, elles les ont prises, elles les ont complètement retapées, et c'est là qu'elles ont commencé alors à faire leur exposition. Livre de Lucie Lippart, avec un petit dessin de Louise Bourgeois, femme maison, dessin des années 40, à l'époque où Simone de Beauvoir va écrire Le deuxième sexe, c'est pour l'histoire du féminisme. Mais les femmes et les maisons sont tout à fait associées. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces premières féministes, quand elles vont organiser leurs expositions collectives, en tout cas en Californie? Eh bien, par exemple, une cuisine nourrissante. Alors, au lieu d'avoir des œufs sur le plat, vous avez des seins. Vous avez alors toute cette notion de ce corps qui continue toujours de nourrir. Des femmes qui sortent du placard. C'est vraiment cette idée de coming out, arrêter de simplement ranger, de toujours vouloir être servile et domestique. Ça, c'est une petite affiche faite par Judy Chicago. C'est un tampax en fait, qu'elle tire, un tampax utilisé. Elles ont fait aussi des salles de bain menstruelles, tout ça. Bon, tout ça, c'est cette notion-là est très, très importante, cette notion du sens, notion de la propreté, de la saleté. C'est important dans une société comme la société américaine, dans une société qui est tout à fait minimaliste et aseptique. Sortir quelque chose comme ça, c'est de nouveau assez fort. Je vous signale au passage que les deux plus grandes luttes que les femmes ont menées dans les années 60 et les années 70, c'était d'obtenir la libération de l'avortement. L'avortement faisait plus de morts adultes que la guerre au Vietnam. C'était vraiment, il ne va être libéralisé qu'en 1975. Domestique, tâches ménagères. Ça va alors justement ici dans le travail de Rossler, elle va associer ce côté belle cuisine mais avec des soldats américains qui sont en train de créer du désordre. Et une artiste qui s'appelle Myrle Laderman Ukeles qui va travailler, tout son travail va tourner autour du nettoyage, autour de la propreté. Donc c'est vraiment bon, ce côté hyper hygiénique qu'on connaît en Occident, ça nous vient bien de l'Amérique. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est vraiment, il y a les après-Shoah, hein. C'est vraiment, il manque quelque chose chez Burroughs qui va alors aller justement dans tout ce qui peut être sale, crasseux, ben, ça va produire alors aussi des contre-effets ou ça va être des réactions par rapport à une société qui est beaucoup trop axée sur l'hygiène et la propreté. Elle va nettoyer les musées et quelques années plus tard, elle va faire toute une action. De nouveau, c'est la rue, c'est le public qu'on n'attend pas dans le monde de l'art. Elle va faire toute une action avec tous les éboueurs de la ville de New York. C'est assez intéressant, dans la photo que vous voyez ici, de nouveau, on a un rapport interracial ou interethnique. Génération suivante, on arrive à la fin des années 70, on rentre dans les années 80, et c'est une artiste qui s'appelle Jenny Holzer, et son travail à elle, en tant qu'artiste, c'est simplement d'employer des textes, et elle va chercher dans des textes moraux ce qu'elle va appeler les truismes, c'est-à-dire des vérités, mais d'une évidence même. Elle va faire des affiches. Elle ne cherche pas du tout à être une artiste avec une reconnaissance. Ce qu'elle veut, c'est de nouveau avoir un contact avec la rue, avec la société. Et elle va coller des affiches. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'on voit en fait que le public réagit. Bon, ça veut dire, c'est un peu comme la conférence, là, hein, hop, il y en a après des trucs. Et puis après, hop, c'est une grande barre, too much shit. Alors ça, c'est aussi dans la littérature américaine, vous avez tous les mots en quatre lettres. Hein. Vous les connaissez probablement toute une série, mais par exemple comme shit, suck, fuck, love et tout ça, ce sont tous des mots alors qui ont une présence assez spéciale. Je voulais faire un rapport avec Marcel Brotars, qui ne s'est jamais posé de questions en tant qu'artiste homme, hein, qui a pu exposer des coquilles de moules, des coquilles d'œufs, ça passait très bien, c'était original pour un homme. Une femme dans les années 60, elle aurait fait ça, elle ne serait pas passée très très loin. Il s'est nommé directeur de sa maison, de son musée. C'est assez intéressant parce que les féministes, et entre autres Lucy Lippart, elles disaient « Si j'étais, si l'art était une maison, je serais la ménagère. » Là-dessus, Cottingham va dire, les artistes hommes, ils auraient dit « Je suis l'architecte, je suis le directeur, mais jamais en fait je suis la ménagère, je ne veux pas être au service. » Cette notion de service, cette notion de soin, elle reste importante et ça va donner aujourd'hui ce qu'on appelle les « theories of care », les théories de la sollicitude, de prendre soin, de faire attention à autrui dans une société aussi cynique que la société occidentale actuelle. Alors, les avantages d'être une femme artiste, ça, c'est les guérilla girls qui vont apparaître, ce sont des activistes, et elles vont placarder, elles vont reprendre cette idée des féministes des années 70, et elles vont de nouveau, en fait, dans l'espace urbain, dans la rue, mettre des affiches. C'est en général toujours assez provocateur, mais tout de même assez rigolo. Est-ce que je peux les lire un peu ? Hein, c'est vraiment... On peut travailler sans avoir en fait peur du succès. Hein, si vous êtes une femme, ben, ça ne va pas venir avant l'âge de 60 ans, on va même dire 80 ans. Tu peux en fait avoir la chance de voir tes idées récupérées par les autres. Ça c'est en fait un avantage d'être une femme artiste, c'est que vous allez apparaître dans les livres d'histoire de l'art réformés. Hein, ça veut dire revus, les versions révisées. Vous pouvez aussi avoir la chance de voir votre image dans un magazine d'art, mais avec un masque de gorille. Alors c'est vraiment... Parce que j'ai pas une autre encore, laquelle... Ben vous n'allez pas en fait avoir de problème non plus. On ne va pas vous garder dans un poste de prof pendant très longtemps. Parce que c'est... aux États-Unis, il y a toutes les hiérarchies. Hein, ça veut dire que vous êtes prof ou bien vous êtes conférencière. Mais les femmes n'avaient jamais en fait accès à un boulot qui durait pendant longtemps. Alors c'était de nouveau une manière aussi... de les voir disparaître. Et elles disent aussi, par exemple, vous avez de la chance de vous voir plaqué par votre compagnon parce qu'il part avec une plus jeune une fois qu'il a eu de la reconnaissance. Enfin, c'est vraiment toutes ces notions de nouveau qui sont basées sur une expérience, sur un vécu, parce que les femmes sont alors encore toujours, en fait, en réponse, en infériorité par rapport à la situation des hommes. Elles vont faire beaucoup pour que les œuvres d'art rentrent aussi dans les musées. Je montre ici parce qu'on voit alors que dans les manifs qui sont organisés dans les années 70, il y a toutes des affiches, on ne les voit pas très bien, mais qui parlent du sida. Alors le sida, années 70, on ne connaît pas. Hein, ça veut dire que vous êtes une génération qui regarde tout autrement, même si vous n'êtes pas conscient, même de manière subliminale. Vous analysez les images sur le corps autrement que ce que ces personnes ont vécu dans les années 70 parce qu'il y a eu le sida, cette pandémie, ce ravage sur les corps. Et ici, bon, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a justement les affiches des guérilla girls, hein, ces pamphlets qui vont être repris dans la rue, et ici tout un questionnement sur, et alors Anna Mendieta, où est-elle, hein, qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé? La toute dernière image, c'est une image de Martha Rosler qui parle en fait d'un travail qu'elle a fait sur les aéroports, sur ces notions nouveaux de voyage. Elle va parler de l'aéroport comme un lieu de passage, un lieu neutre, où on accélère les circulations d'argent et de personnes. Burroughs, Smith, Anderson, Eleanor Hunting, Chicago, là, ils ont beaucoup repris cette notion du voyage, du déplacement par les avions, les American Planes, ces avions qui apportent aussi la guerre ailleurs. Et donc ça, c'est de nouveau pour revenir alors à d'autres questions. Dernière image. Bravo, vous avez tenu le coup jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des réactions ? Rien du tout. Vous êtes tous endormis au passage, non?
Est-ce qu'il y a des travaux que vous connaissiez déjà plus particulièrement, des artistes?
On n'est plus dans cette division. On est passé, on a dû passer par cette division pour arriver à penser comme on pense aujourd'hui. Ça veut dire, c'est parce qu'il y a eu, et il y a toujours cette recherche à vouloir être égal ou considéré comme égal sur le plan sociétal aux hommes, mais avec toujours cette volonté de différence. Et la différence, elle ne va pas arrêter de se multiplier. Par exemple, j'avais dit, je vais parler plus des lesbiennes, mais comme elles sont tellement invisibles à l'époque. C'est vraiment par la littérature qu'elles vont sortir. Monique Wittig a écrit Le corps lesbien, c'est magnifique, c'est vraiment c'est un essai. Et puis elle a écrit La pensée straight. Alors elle est française d'origine, mais elle va émigrer aux États-Unis et c'est là alors aussi qu'elle va développer cette théorie, la pensée straight, où elle va montrer alors de nouveau comment la société fonctionne sur ce rapport hétérosexuel et comment elle veut le changer. Ça veut dire aussi il y a beaucoup plus que deux identité sexuelle. Il y en a plein d'autres qui vont apparaître.
Je pense qu'aujourd'hui, justement, les femmes artistes ne sont plus en effet dans ces revendications d'accès au travail artistique en soi, mais en effet, elles continuent aussi à préciser parfois certaines approches qui seraient liées en effet à la question de genre. Je crois que ça n'a pas disparu complètement. Elle aborde avec un regard qui serait le leur. Enfin, je ne sais pas, je pense à des démarches aussi comme Sophie Kyle, qui réinvestit quand même aussi, même en ayant liberté complète de travail et une reconnaissance mais très importante, ces questions du corps. Est-ce qu'elle se met en scène elle-même, joue justement à ce risque de se mettre en scène aussi comme stripteaseuse à un certain moment? On relit quand même, quand on voit les travaux, j'ai l'impression qu'on redécouvre incroyablement des choses.
On redécouvre aussi. C'est une base, ça veut dire c'est un fond, et de là il y a des choses qui ont disparu mais qui réémergent, juste parce qu'on refait l'histoire de l'art, mais aussi parce qu'il y a des courants qui ont vraiment été ouverts. Et de travail de Sophie Kyle, que j'ai indiqué comme ça, c'est très pointilliste, c'est vraiment ce côté, comme ça, un petit point. C'est vraiment la biofiction. En même temps, il y a ce côté biographique et en même temps, il y a une fiction qui va être développée à partir de ça. C'est vraiment une caractéristique alors, aussi dans cette production.
Et puis, on parle de l'effet déjà à cette époque-là, des histoires personnelles, l'autobiographie, la mythologie personnelle, donc qui sont des choses qui l'intiment.
C'est la pleine période.
C'est la pleine période qu'aujourd'hui.
Qui est institutionnalisée. Oui. Très étrange, ça veut dire qu'elles vont se battre contre les institutions, elles rentrent dans les institutions. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut encore changer, comment est-ce qu'on va changer encore les choses aujourd'hui? Parce que ça veut dire la situation peut-être pas spécialement. Elle est plus accessible, mais elle n'est peut-être pas plus agréable pour autant. C'est vraiment ce côté, alors aussi, on peut chercher des autres paramètres.
En tout cas, il y a beaucoup de filles dans les écoles supérieures artistiques. C'était une réflexion que je faisais hier en cours d'essai. Parce qu'il y a tout un workshop.
Mais il y en avait toujours, ça veut dire, cette génération-là aussi, il y avait plus de femmes que d'hommes. Mais les femmes ne passaient pas. C'est vraiment, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui a changé. C'est pour ça que je vous ai un peu assommé avec toujours cette volonté de parité, mais elles l'ont malgré tout, elles l'ont instauré. Ça veut dire, après, il y a encore beaucoup de choses à apporter, à changer. Ça y est, c'est l'heure du prochain cours. Ou bien vous avez congé, c'est les vacances.
Non, ils sont en train de rentrer à l'examen. Ils sont un peu
incubatoire. Bien, merci d'être venu et une belle continuation dans cette journée, plein de soleil.